Bonjour, je m'appelle Maude du projet Accompagnement Solidarité Colombie, le PASC. C'est un collectif québécois qui a vu le jour dans le sillon des grandes mobilisations qu'il y avait contre l'ASLEA, la zone de libre-échange des Amériques. Si vous en souvenez, c'est des mobilisations qui ont culminé par les grandes manifestations à Québec en avril 2001 contre le sommet des Amériques. Et notre idée, c'était de poursuivre ces mobilisations-là en faisant le suivi de cas concrets où les investissements canadiens, entre autres, et cette vision néolibérale d'appropriation des territoires et des ressources naturelles se confrontaient sur le terrain avec les intérêts des peuples. En Colombie, puisqu'il y a un conflit armé depuis une soixantaine d'années, ce sont des conflits par rapport à l'appropriation des ressources naturelles qui sont éminemment violents avec le recours d'une stratégie militaire et paramilitaire. Donc, on a commencé à accompagner il y a une dizaine d'années des communautés principalement afro-descendantes, autochtones et paysannes qui sont en résistance contre des méga-projets d'exploitation des ressources naturelles. En tant que collectif canadien, on croit que c'est dans notre responsabilité de cibler les politiques canadiennes qui favorisent ce type de conflit. Donc, on a une campagne qui s'appelle « Ciblons les profiteurs canadiens de la guerre en Colombie » et qui vise à dénoncer les entreprises qui non seulement profitent du climat d'impunité en Colombie, mais qui, selon nous et selon nos partenaires en Colombie, alimentent le conflit armé. Alors, je vous donne un exemple. Il y a en ce moment énormément de pétrolières et de minières canadiennes en Colombie. Pourquoi? On pourrait penser que c'est depuis la signature de l'accord de libre-échange en 2008, qui est rentré en vigueur en août 2011. Selon notre lecture, non, c'est un accord, bien sûr, un accord de libre-échange économique, mais qui n'avait pas tant d'avantages économiques pour les deux parties. C'était vraiment un accord politique où notre gouvernement conservateur, Harper, est allé serrer la main publiquement à l'ex-président de la Colombie, M. Alvaro Uribe, reconnu mondialement pour son support, son appui direct à la stratégie paramilitaire. Aucun autre président au monde ou représentant diplomatique a osé proposer un accord pendant les 8 ans du gouvernement d'Uribe. Seul le Canada l'a fait et la Colombie avait tout intérêt à signer un accord de libre-échange avec le Canada pour forcer la main aux États-Unis, puisque depuis près de 8 ans, les démocrates bloquaient tout accord de libre-échange entre les États-Unis et la Colombie en prétextant que la Colombie, c'est, et ils ont raison, le pays où il y a le plus grand taux d'assassinats de syndicalistes au monde. Depuis que le Canada a signé son accord de libre-échange, ça a ouvert la porte aux grands frères américains et maintenant, les Américains ont un accord de libre-échange avec la Colombie. Ce que je vous racontais, c'est que selon nous, ce n'est pas donc cet accord de libre-échange qui a ouvert le marché aux minières et aux pétrolières canadiennes, c'est plutôt un projet d'aide internationale, je mets des gros guillemets, qui est donc l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, a été mandatée entre 1997 et 2001 pour un projet d'aide internationale sous le titre « Projet énergie en Colombie ». Ce projet poursuivait deux buts. D'un côté, dans le langage gouvernemental, renforcer les capacités du ministère des Mines et de l'Énergie en Colombie, les capacités du ministère de l'Environnement ainsi que de toutes les instances de régulation environnementale en Colombie et de promouvoir un cadre législatif favorable aux investissements étrangers dans le domaine des hydrocarbures en Colombie. Pour ce faire, l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, avait, en concertation avec l'IRCE, l'Institut de recherche canadienne en énergie, ont mené en Colombie des réformes législatives. Alors concrètement, ils ont engagé un cabinet d'avocats privé, le cabinet Martinez et Cordoba, qui à l'époque représentait la majorité des minières canadiennes ayant des intérêts en Colombie. Et ce sont les avocats de ces minières qui ont été payés par nos fonds publics pour rédiger le nouveau code minier de la Colombie qui est rentré en vigueur en 2001. Alors ce nouveau code minier, bien sûr, laisse grande place aux investissements étrangers, entre autres en rendant illégale toute activité minière à petite échelle. En Colombie, on compte près de 6 millions, on compte près de 2 millions de mineurs artisanaux. Donc, ce sont des gens qui, de façon coopérative ou individuelle, produisent, font de la production minière, mais à très petite échelle, de façon artisanale. Le nouveau code minier rend illégales les activités d'industrie minière à petite échelle en prétextant que seules les firmes transnationales ont la capacité de s'en tenir aux standards de dit développement durable. Autre fait marquant de ce nouveau code minier, c'est qu'il permet les concessions minières dans les parcs naturels, dans les réserves forestières, sur les territoires autochtones, sur les territoires afrodescendants. Tous des figures juridiques qui sont reconnues par la loi colombienne. C'est-à-dire que les communautés afrodescendantes ou autochtones sont supposées avoir pleine autonomie sur leur territoire. Je me réfère même pas à la Convention 169 de l'OIT qui oblige les États à consulter les peuples dits tribaux avant de mener des projets d'exploitation des ressources naturelles ou des méga-projets de développement sur leur territoire, mais bien aux propres lois nationales. Donc, le nouveau code minier vient en contredire les lois qui protégeaient les territoires collectifs autochtones et afrodescendants. Depuis l'entrée en vigueur de ce code minier, maintenant, on est rendu à 40 % du territoire colombien qui est consenti en concession minière. Parmi ces nouvelles concessions minières, ce sont des entreprises canadiennes qui, actuellement, ont des concessions pour l'exploration. Un autre fait marquant de l'implication du Canada en Colombie, via encore ce projet énergie géré par l'ACDI, c'est le démantèlement de l'entreprise publique de pétrole. Alors, jusqu'en 2003, la Colombie, telle que le Venezuela, telle que plusieurs pays dits sous-développés, avait réussi à se maintenir dans l'économie mondiale grâce à une industrie pétrolière forte et nationale. Ce que fait le projet d'aide internationale du Canada, c'est de mettre en place des partenariats publics-privés avec l'industrie nationale du pétrole, ce qui fait en sorte que concrètement, dans plusieurs régions, Ecopétrole, l'ancienne entreprise nationale, fournit les infrastructures gratuitement aux transnationales et les investissements étrangers arrivent. Ils ont déjà les infrastructures, l'électricité, les routes, les installations. Ils n'ont qu'à exploiter et à retirer les profits. Bien sûr, en faisant ces réformes législatives, le Canada s'est assuré de garder pour ses entreprises une grosse part du marché au niveau des redevances, au niveau des profits. Par exemple, pour ce qui est du secteur minier, les redevances que payaient les minières étrangères au gouvernement colombien sont passées de 8 % à 0,2 %. Dans le cas des pétrolières, c'est passé de 20 % à 8 %. Donc, c'est également non seulement une perte en ce qui a trait à la souveraineté sur leurs ressources naturelles, mais également une perte en termes de redevances et donc de possibilités pour l'État colombien de fournir des services sociaux, des infrastructures, etc. Donc, une plus grande part des profits qui sont expatriés vers l'extérieur. Et c'est d'autant plus grave si on considère les désastres écologiques que nécessairement, ils ont beau nous dire que c'est durable, que c'est écologique, on ne va pas les croire. Il n'y a aucune industrie pétrolière ou minière à grande échelle qui peut ne pas causer de dommages environnementaux et donc ne pas affecter que ce soit l'activité traditionnelle paysanne, que ce soit la santé, que ce soit la libre circulation des gens sur leur territoire ou l'accès à leurs ressources naturelles. Peut-être, si j'ai encore le temps, je vais vous donner des cas concrets de conflits qu'il y a en ce moment en Colombie en ce qui a trait aux entreprises canadiennes. Un cas qui est très connu, c'est celui de Marmato, qui est un village du département de Caldas en Colombie. Le village de Marmato est classé patrimoine national historique puisque c'est un village qui a été créé pendant la colonisation espagnole pour faire de l'exploitation d'or. Donc, depuis plus de 500 ans, toute l'économie de la région tourne autour de l'activité minière. Sauf que depuis que les Espagnols ont quitté les mines, ce sont les descendants des esclaves, donc autochtones et afro-descendants, qui ont continué l'activité minière, mais de façon indépendante. En petite coopérative de travail, on parle de petites mines où vont travailler entre 5 et 30 personnes, pas plus, et qui produisent très peu d'or. Même dans le code municipal, dans la législation de la région, l'activité minière est reconnue comme étant durable dans la mesure où on considère que pour les générations à venir, il va encore y avoir la possibilité de subvenir à ses besoins avec l'activité minière. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code minier en 2001, financé par le Canada, il y a maintenant une possibilité de donner aux transnationales les concessions minières qui autrefois appartenaient à des petits mineurs artisanaux puisque ceux-ci sont devenus illégales. Donc, les entreprises transnationales sont arrivées dans la région, ont acheté les concessions. Dernièrement, je vous passe le jeu des rachats, fusions, etc. L'été dernier, c'est la Gran Colombia Gold, une entreprise canadienne, qui a racheté l'ensemble des concessions minières. Son projet, réaliser un grand site d'exploitation à ciel ouvert sur la montagne de Marmato. Concrètement, pour réaliser leur terrain, ils doivent déplacer l'ensemble du village. Donc, le village historique n'existera plus. Les 300 000 habitants devront être déplacés. Bon, vous pouvez vous en douter, il y a eu une forte opposition des villageois. Alors, la compagnie a usé de plusieurs stratagèmes. Bon, premièrement, comme ils font toujours, en créant une ONG, dite ONG canadienne pour le développement durable, qui va faire de la concertation avec les communautés. Ça n'a pas été suffisant. Donc, les autorités départementales et locales ont lancé des alertes rouges disant que la montagne allait s'effondrer et que les gens devaient se déplacer au plus vite. Ça a créé une pagaille complète. Certaines personnes se sont déplacées. Et ensuite, l'autorité environnementale gouvernementale a réalisé une étude et a dit que non, il n'y avait aucun risque d'effondrement de la montagne. Donc, c'est un des stratagèmes utilisés pour réellement tromper les gens et les forcer à se déplacer. Un indice inquiétant de la violence qu'a créé ce projet minier, c'est l'assassinat, que nous on juge un assassinat politique, du père Restrepo, c'est le curé de la paroisse, qui en septembre était sorti publiquement à la chaîne de télévision nationale pour dénoncer les pressions qu'il recevait lui personnellement de la part de fonctionnaires de Grand Columbia Gold qui lui demandaient de déplacer sa paroisse en dehors de Marmato dans le but, bon, de déplacer l'ensemble du village. Alors, il est sorti publiquement en disant qu'il était tanné de se faire harceler par les fonctionnaires de Grand Columbia Gold, qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi son église était fermée ou avait été vendue, ce qui était faux, et en disant qu'il s'opposait au déplacement du village et que s'il voulait qu'il quitte la région, il le ferait seulement criblé de balles. 4 jours plus tard, son corps a été retrouvé criblé de balles. Bien sûr, le gouvernement colombien, les autorités ont dit que c'était un cas de vol, de délinquance, etc., classé, impunité totale. Donc, ça, c'est un exemple de comment les compagnies vont profiter de l'impunité politique, de la violence politique qu'il y a en Colombie. Peut-être prendre un exemple de la même compagnie, puisque la Grand Columbia Gold fait partie d'un consortium de compagnies qui sont les plus importantes en ce moment en Colombie, dans le domaine des hydrocarbures, donc autant minier que pétrolier. La Grand Columbia Gold a un autre projet dans la région de Nariño, qui se trouve à être au sud-ouest de la Colombie. Et à cette place, elle mène en ce moment des activités d'exploration. Donc, concrètement, il n'y a pas eu d'annonce publique, il n'y a pas eu de référendum, de consultation, rien. Les fonctionnaires de Gran Colombia Gold sont arrivés et ont négocié un à un avec les paysans pour faire des activités de forage sur leur terrain. Ça fait plus d'un an qu'ils sont en activité de forage, donc les gens commencent à en parler, on commence à s'organiser, à se mobiliser contre ces projets, puisque c'est principalement des paysans dans la région qui n'ont aucun intérêt à voir leurs terres détruites par l'activité minière. Alors, pour se protéger, ce que fait Grand Columbia Gold, c'est qu'elle engage une agence de sécurité privée sur le terrain. Qui forme cette agence de sécurité privée? Des ex-paramilitaires très connus dans la région. Donc, concrètement, on a des agents de sécurité privée de Grand Columbia Gold qui se promènent dans la région pour faire peur, pour intimider les opposants. Ils sont armés, ils ont leur habit militaire, ils sont cagoulés. Pour les habitants de la région, que ce soit encore des paramilitaires ou que ce soit des agents de sécurité privée, ça ne fait aucune différence. Ce sont les mêmes gens qui ont commis des massacres, des viols, des tortures, des menaces, etc., quelques années plus tôt. Donc, la communauté est complètement terrifiée et il y a de plus en plus d'affrontements violents entre les promoteurs de la mine, si on veut, les travailleurs, les gens de la région qui ont accepté de travailler pour la mine et les paysans qui refusent l'accès à leur terre paysanne pour les activités de forage.
Aujourd'hui, on vous a invité à la journée de partage et d'information organisée par les femmes de diverses origines sous le thème « Les femmes résistent à l'exploitation des minières canadiennes à la défense de la terre-mère ». Je sais que vous revenez récemment d'un voyage en Colombie. Est-ce que vous avez pu constater concrètement la résistance des femmes et aussi les abus dont elles sont victimes?
Bien. En Colombie, on travaille avec un réseau de femmes qui s'appelle la Confluencia de Mujeres, donc la confluence des femmes, la coordination des femmes, et qui regroupe des processus très, très, très divers. Donc, autant des femmes réfugiées internes que afrodescendantes, membres de communautés autochtones, prisonnières politiques ou universitaires, syndicalistes, etc. C'est donc très divers, avec des points de vue également très divers, mais qui ont un consensus sur deux enjeux. D'une part, la nécessité, le thème de l'accès à la terre et au territoire, et d'autre part, la question de la violence contre les femmes. Pour ce qui est de la terre et le territoire, ce que les femmes demandent, comme partout en Amérique latine, c'est des changements législatifs leur permettant d'avoir un accès à la propriété terrienne. Donc, des cas comme ceux dont je vous parlais, où il y a un changement des lois colombiennes pour permettre de larges concessions minières sur les terres, ça va directement contre la revendication des femmes d'avoir un plus grand accès aux terres. L'autre point, c'est celui de la violence. On considère qu'en Colombie, la majorité des violations aux droits humains, la majorité des déplacements forcés se réalisent dans les régions où il y a des investissements miniers et pétroliers. La Sintra Minerco, le plus grand syndicat des travailleurs des mines en Colombie, considère que 80 % des déplacés internes de la Colombie viennent des régions minières ou pétrolières. En Colombie, on parle, selon les chiffres, d'entre 4 et 6 millions de réfugiés internes. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de déplacés internes après la crise, après la région du Soudan, après la région du Darfour au Soudan, pardon. Donc, et quand on parle de déplacés internes en Colombie, on parle généralement de femmes. 76 % des réfugiés internes sont des femmes et la majorité de celles-ci ont à charge enfants. Bien sûr, sont chefs de famille puisque les hommes soit ont été recrutés par des groupes armés légaux ou illégaux, soit sont déjà cachés à cause de la violence politique ou ont été emprisonnés, ou etc.